Nous sommes en compagnie de Pierre Gentel, géographe, spécialiste de la Chine et directeur de recherche émérite au CNRS. Aujourd'hui associé au Centre d'études sur la Chine contemporaine à l'École des hautes études en sciences sociales, il est depuis longtemps un observateur privilégié des transformations de la société chinoise. Alors Pierre Gentel, un de vos sujets de prédilection tourne autour de l'urbanisation. En Chine, elle est particulièrement rapide. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle révolution ?
Je porte un regard étonné, d'abord, parce que je n'ai jamais vu des villes pousser aussi vite, et je n'ai jamais vu une transformation aussi extrême de la manière de vivre des gens. J'ai commencé à vivre à Pékin il y a longtemps maintenant, à l'université de Peita, et c'était la grande époque où il n'y avait quasiment rien, où il y avait juste des vélos. Et pour rejoindre Pékin, ce qui était à 18 km en hiver, c'était quasiment impossible. Alors que maintenant, il semblerait que tout le monde aille en voiture. On avait dans le centre de Pékin des petites maisons grises. Maintenant, on ne sait plus si on s'arrête au 30e ou au 40e étage. Et encore, Shanghai est bien pire, ou bien mieux, comme on veut. Donc, pour moi, c'est ça un des faits majeurs de la transformation de la Chine aujourd'hui.
Mais ça correspond à une transformation économique, finalement, cette urbanisation.
Oui, économique, bien sûr, mais non, évidemment. Mais pas seulement. La question que je me pose toujours, et que ça fait longtemps que je me la pose, et je vais me la poser longtemps, je crois, c'est pourquoi ? Pourquoi, tout d'un coup, les Chinois, ces Chinois, vous savez, dont on se moquait il y a 50 ans en France, hein, pourquoi les Chinois se mettent à s'activer comme ils le font, avec finalement des qualités qui sont au moins égales aux nôtres, alors que dans les décennies précédentes, tout le monde disait qu'ils étaient encroûtés, qu'ils ne progressaient pas, que, enfin bref, vous savez bien ce qu'on racontait de la Chine, de la période de Chiang Kai-shek, nationaliste, ou bien avant la période des seigneurs de la guerre, dans les années 30, ou bien de la révolution chinoise qui a mené à la fin de l'Empire en 1910, ou bien encore avant. Donc, qu'est-ce qui arrive à ces Chinois ? Moi, je sais toujours pas l'expliquer.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu mystérieux. Mais alors, cette croissance exponentielle des villes, elle a un impact énorme sur le paysage ?
Sur le paysage, oui, évidemment. Mais je dirais sur la mentalité des gens, bien plus. Parce que quand je suis arrivé à Pékin, il y avait peut-être 30% la première fois, hein, il y avait peut-être 30% de la population qui était, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais enfin aux environs d'eux, qui étaient dans les villes, qui vivaient dans les villes. Donc 70% de la population dans les campagnes. Ce qu'il y a aussi, c'est que quand je suis arrivé à Pékin, c'était il y a 48 ans, je crois, la première fois, la population était moitié moindre que maintenant. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a rappelé qu'il y avait 1,3 milliard d'habitants. Ben, il y en avait 675 millions.
Oui.
675 millions. Ça fait un doublement. Ce qui veut dire que le pourcentage qui est passé maintenant aujourd'hui à 40-45%, peut-être bientôt 50%, et on attend 60% pour 2030... ça veut dire que non seulement le pourcentage croît, mais le nombre absolu croît de manière absolument ahurissante. Quand vous pensez que, on prévoit que d'ici justement, alors là aussi, mettons 2020-2025, il y a 300 millions de paysans qui vont devenir des urbains.
C'est pas mal.
Oui, ça fait beaucoup.
Eh bien, oui, et j'ai lu qu'il y aurait, dans 10 ans, 870 millions de Chinois, soit la moitié de la population qui vivrait en ville.
Eh oui, 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 tout à fait. Donc, ça veut dire quand même que, vous vous rendez compte, ne serait-ce que, je garde ce chiffre de 300 millions de paysans qui vont en ville, ça fait 300 villes de 1 million d'habitants qu'il faut inventer, avec de quoi les loger, de quoi les faire travailler, etc., etc. J'aimerais voir en France qu'on invente une ville de 1 million d'habitants.
Oui, mais est-ce que la Chine est prête, justement, à cette situation ?
Oui, non.
Non ?
Les deux. Non, justement, c'est ça qui est étonnant, c'est que, selon toute logique, ça ne devrait pas être possible. C'est incroyable, quand même, ce changement. Et néanmoins, il y a un changement. Bien sûr, je sais, j'entends bien ce qui se dit en France sur la Chine, et qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, etc., etc. Oui, je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est les choses qui marchent. C'est pourquoi ça marche. Alors que justement, il y a tellement de raisons pour que ça ne marche pas. Et
oui,
pourquoi ça ne marchait pas avant et pourquoi tout d'un coup ça se met à marcher. Je ne veux pas dire, pour être clair, je ne veux pas dire c'est parce que c'est le PC qui est au pouvoir, hein, le Parti communiste chinois, parce que du temps de Mao, ça ne marchait pas.
Oui, mais c'est pas le même. C'est pas le même PC.
Oui, justement, c'est pas le même. Alors c'est pour ça, là aussi, que nous avons des choses à apprendre quand on en parle sur ce que c'est que cette Chine qu'on imagine toujours immobile, c'est fatigant, et alors que même le PC s'est transformé complètement. Depuis Deng Xiaoping, on sait bien ça, depuis 79, mais 79-2009, ben, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait 30 ans, quoi. En 30 ans, bouleverser le pays et bouleverser surtout la mentalité des Chinois comme ça, j'en reste, là encore, sans voix.
Ça veut dire qu'ils sont peut-être plus adaptables que les Européens ?
Je crois pas. Je ne crois pas. Je ne sais pas. J'ai plusieurs hypothèses, bien sûr. Hein. Non, je crois pas à la différence de qualité à ce point entre les peuples. Je crois que tous les hommes se valent. Je crois beaucoup au poids des structures et au poids des mises en action, de l'organisation. Je vois bien ce qui a déclenché le mouvement des Chinois. C'est qu'on leur a dit, ce que vous allez maintenant faire comme travail, ça va vous être rapporté à vous. C'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent. Et l'argent que vous allez gagner, eh ben, on ne vous le reprendra pas tout de suite.
ce qui changeait beaucoup.
Mais oui, ce qui change beaucoup. Et ça, il semble que ce soit un des moteurs essentiels. Je suis certain que dans d'autres peuples, et même en France d'ailleurs, si on disait la même chose aux gens, alors évidemment, c'est le capitalisme sauvage. Hein. Mais bon,
on va
savoir
dire
ce qu'on veut. Hein. Or, les communistes chinois semblent avoir voulu un capitalisme débridé.
Ah, ils sont plus sauvages que les Américains, ça c'est sûr.
Oui, mais les Américains étaient bien plus sauvages au début, quand ils se sont créés comme grande puissance, en 1914 et avant. Regardez, hein, bon, c'est pas seulement le Far West, mais c'est la Morgan Company, etc., et tous les grands Rockefeller, et tous les grands. C'était absolument terrible aussi, mais c'est ça qui leur a permis de supplanter la vieille Europe. Alors on peut se poser la question sur l'évolution des civilisations. Je n'irai pas jusque-là aujourd'hui. Encore que j'aimerais bien, mais il faut qu'on parle d'autre chose.
Ça recommence en quelque sorte. Un siècle après, c'est...
Ah oui, bah, oui.
De toute façon, la révolution industrielle s'est déplacée dans le monde.
Et oui, mais non seulement elle s'est déplacée, et c'est ça aussi qui m'étonne, c'est que les Chinois font la révolution industrielle que nous avons faite. Nous avons mis, bon, plus longtemps, eux, ils le font en raccourci. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont obligés de prendre la révolution de l'informatique, la révolution des...
Tout à la fois.
Des tout à la fois. Et ils sont obligés d'inventer. Alors là aussi, parce que souvent, on est sensible, on dit chez nous, j'ai entendu plusieurs émissions dans ce genre-là, que les Chinois copient tout ce que nous avons fait. C'est vrai. Et c'est faux. On va s'en apercevoir bientôt.
Oui, très,
très
vite.
Parce qu'on ne peut pas partir de zéro. Il faut copier d'abord pour pouvoir inventer. Mais ils sont décidés à inventer. Alors attendons un petit peu. Montrons-leur comment nous savons faire. Et après, on va bien voir ce qu'eux, ils sauront faire et qu'ils nous montreront.
Bah, il n'y a qu'à voir le développement des départements de recherche dans les universités.
Oui, mais bien sûr. Alors, ils ne sont pas les premiers, ils ne sont pas les meilleurs. Il y en a de meilleurs au Japon, il y en a de meilleurs aux États-Unis, quelques-uns en France, bon, on verra. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va y en avoir d'excellents de plus en plus. Et surtout, ce qui m'étonne, c'est dans tous les domaines. Mais il n'y a pas un seul domaine de la vie scientifique, de la vie littéraire, de la vie, tout ce que vous voulez, économique et tout, que les Chinois ne s'approprient pas et qu'ils n'aient pas décidé de s'approprier. En plus, ils ont décidé de le faire. Alors, qui a décidé ? Là encore, c'est un mystère. Il ne suffit pas qu'un gouvernement dise au peuple « Fais ceci pour que le peuple le fasse ». Il se trouve que c'est le peuple qui le fait lui-même. Alors, ce développement actuel, ce que j'appelle d'un peu, il s'auto-entretient. Il n'y a même pas besoin de dire aux gens, tu vas aller essayer d'être excellent en mathématiques, tu vas essayer d'être excellent en, je sais pas, en neurobiologie. Ils y vont. Et comment des gens qui, avant, dit-on, vivaient en tirant des pousses-pousses, tout d'un coup se mettent à être des excellences au point de vue scientifique dans des universités rénovées. Moi, je trouve ça étonnant.
Il y a aussi l'impact du nationalisme, parce qu'ils sont fiers de le faire,
tout à fait.
Et pour eux et pour le pays.
Tout à fait. Mais ça, le nationalisme, bien sûr, mais je dirais que ils ont toutes les raisons d'être nationalistes, parce qu'ils ont été tellement humiliés pendant le siècle et demi qui est avant, et même avant, hein, parce que l'humiliation mandchoue est quand même quelque chose de fondamental. Elle remonte au XVIIe siècle. Faut pas. Là aussi, la dynastie chinoise, l'empire chinois, qu'ont connu les colonisateurs à l'époque, c'est un empire mandchou, c'est pas un empire chinois, c'est les mandchous qui dominent les Chinois, qui les obligent à se raser la tête, vous vous rappelez, et à porter la natte. Donc, pour montrer que c'est les sujets des Mandchous. Donc, déjà, il y a ça comme humiliation. Puis après, il y a les Anglais qui arrivent en 1842 à Hong Kong. Et puis après, on peut continuer, si vous voulez, toute la période coloniale.
Oui, la guerre de l'opium, etc.
La guerre de l'opium, oui. Et puis la période coloniale qui va mener à la fin de l'Empire et qui va mener, contrairement à ce qu'on pensait, à la désintégration de la Chine à partir de 1916. Les seigneurs de la guerre, la Chine qui s'en va de tous les côtés, et après, ben, elle se reprend en main, la lutte contre les nationalistes qui vont à Taïwan. Parce qu'il y avait des nationalistes. Il faut bien voir que Chiang Kai-shek, hein, c'est pas le parti communiste, c'est autre chose. Alors il y a une réappropriation de tout ce qui fait bouger la société. Le nationalisme actuel des Chinois, il est extrêmement fort. Mais je dirais peut-être qu'il est aussi fort que le nationalisme des Français quand ils avaient à récupérer l'Alsace-Lorraine.
Donc il y a un siècle, en gros. On va dire un siècle.
À peu près.
Un siècle.
Mais bon, les comparaisons.
Oui, ça permet quand même de situer les choses. Mais à propos de comparaison, d'ailleurs, vous parliez du nombre d'habitants en Chine. Et je voulais rappeler que Pierre Loti dit qu'en 1900, là, au moment où il était arrivé en Chine, et il y avait à peine 400 millions d'habitants.
Oui,
et ça lui paraissait gigantesque, Pierre Loti. Et donc
oui,
voilà, 1900.
J'aime bien le mot à peine, parce que j'aimerais une France avec à peine 400 millions d'habitants.
Bah oui, voilà. Mais par rapport à 1,3 milliard, c'est à peine 400 millions.
Oui, je suis d'accord.
Voilà, c'est grand d'un siècle, ça a été vraiment effarant, cette progression. Alors bon, si on retourne à la ville, habiter en ville, ça réduit ou ça accentue la pauvreté de ces paysans qui finalement arrivent en ville ?
Ben, les deux, parce que tous les paysans globalement, tous ces fameux Mingong qui vont travailler, qui émigrent vers la ville, c'est disons, en différé, le mouvement qui a touché la France dans les années 1880 à 1910 à peu près, où tout le massif central s'est vidé vers les villes, où toute la Bretagne s'est vidée vers les villes, et toutes les provinces en général, on voit bien les conséquences actuelles. C'est le même processus. Je ne dirais pas que c'est la même chose, mais c'est le même processus.
Mais
aujourd'hui,
puissance,
il est clair que la plupart des paysans vont en ville pour s'enrichir.
Enfin, pour survivre.
Ah non, plus que ça. Là, j'arrive de Chine, là, il y a quelques mois, dans un coin perdu de Chine, la province du Guizhou, qui est pauvre, une des plus pauvres, si ce n'est pas la plus pauvre. Eh bien, dans tous les villages, il n'y a plus de jeunes. Tous les jeunes sont partis en ville et ils envoient de l'argent à leurs parents pour qu'ils vivent, pour qu'ils puissent rester à la campagne avec ce qu'ils gagnent en travaillant la terre. Et ils considèrent, eux, qu'ils s'enrichissent. Alors, c'est vrai qu'ils vivent dans des conditions épouvantables. C'est vrai qu'ils vivent, mais un peu comme les immigrés en France, hein, qui viennent des pays sous-développés, comme on disait avant, en développement, comme on dit
maintenant.
Ah
oui, parce que ça se dit plus, ça.
Mais, si vous voulez, ils vivent un petit peu, ils se privent, effectivement, pour pouvoir envoyer, et on leur fait vivre des choses dans des conditions qui sont épouvantables.
Ah, c'est limite l'esclavage.
Il faut relire ce qui se passait en Angleterre du temps de la première révolution industrielle. Hein. Il y a eu des gens qui ont écrit là-dessus en anglais.
Ah, puis de toute façon, il y a Zola, hein, c'est pas...
Oui, c'est plus tard, mais bon...
Mais est-ce que vous pensez que c'est ce rêve d'ascension sociale qui booste la croissance, finalement, dont on parlait tout à l'heure ?
Sans aucun doute, puisque chaque Chinois a envie d'accroître et sa richesse, et son bonheur, et son confort, et son prestige. Alors, par conséquent, chacun s'y met. Mais ce qui est étonnant, c'est que si chacun se met à fonctionner pour lui, pour soi-même, normalement, sa vie brillonne et ça crée ça crée le désordre. Il y a un désordre formidable. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive quand même, dans ce désordre, à retrouver un ordre qui fait que, globalement, on a l'impression, en ce moment, que tous les gens vont dans la même direction. Et ça, je pense que c'est le poids des structures. Ah. Structures politiques, structures économiques, structures d'organisation. Si vous voulez, j'ai peur que sans structure, la Chine ne se dissolve en une myriade d'individus acharnés à grignoter des choses supplémentaires et quitte à les prendre aux autres.
Cette structure, elle est très musclée, c'est pour ça qu'elle fonctionne.
C'est peut-être pour ça qu'elle fonctionne.
C'est
mais
tout.
Alors, j'ai pensé ça un temps, mais en même temps, regardez la structure en Inde, ça fonctionne aussi, mais elle n'est pas aussi musclée que ça. Regardez le Brésil.
C'est vrai.
Il y a bien un problème.
Mais c'est quand même la Chine qui a réussi le mieux.
Oui, d'accord. Ben, mais enfin, tout. Bon, attendons un peu. Mais on n'a pas besoin, si vous voulez, de se payer des structures aussi rigides, peut-être.
Ça, c'est
donc, non, là, il y a un vrai problème, je pense. Il y a un vrai problème.
Un débat de fond, ça.
Oui.
Alors, ce nationalisme des Chinois qu'on a évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il est compatible avec la mondialisation et surtout avec la volonté des USA de continuer à dominer le monde?
Ah, alors, il est compatible avec la mondialisation, oui. Il n'est pas compatible avec la volonté des USA de dominer le monde. Ça, c'est clair. Je pense que c'est tellement évident, il n'y a pas besoin de grand développement pour ça. Ce qui est sûr, c'est que la mondialisation, pour les Chinois, c'est la continuation agrandie des premiers progrès qu'ils ont faits en eux-mêmes à partir de 79. Si vous voulez, la mondialisation, elle se fait en Chine à partir de 1990-95. Et ils entrent à l'OMC en 2001. Hein, donc, il y a longtemps, 7 ans, et puis pas longtemps. Bon, et ils y entrent pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de s'approprier la mondialisation. Et la mondialisation, ça veut dire qu'ils vont sortir de chez eux et aller dans le monde entier. Ils font venir pour la première fois volontairement les étrangers chez eux, avec l'ouverture des ports, l'ouverture des, vous savez, des zones économiques spéciales, etc. Bon, ils ont fait ça à partir de 84.
Donc mais, c'est une vraie révolution, ça.
Ah oui, mais c'est une vraie révolution. Ils ont voulu que les gens, que les étrangers entrent, et puis alors maintenant, c'est eux qui sortent. Alors on vous parle de Chine-Afrique, on vous parle de... Oui, ils ont la politique qu'ont les États-Unis avec deux siècles de retard, même un siècle et demi.
Bon, bah alors si les deux ont la même politique, est-ce qu'il y a une crise majeure qui se profilerait pas?
Non, il y en a un des deux qui changera. Ce ne sera pas les Chinois.
Bon, donc vous êtes confiant sur cet équilibre entre Chine et USA qui,
non,
qui...
je ne suis pas confiant du tout. Mais je me dis que le dynamisme actuel des Chinois est tel que je ne vois pas ce qui pourrait le freiner.
Oui, c'est un rouleau compresseur, en fait.
C'est un rouleau compresseur qui est parti et qui n'est pas destiné, contrairement à ce que croient certains, à dominer le monde. Je crois que dominer le monde, ils s'en moquent pas mal. Et, non, je crois pas à ça. Enfin, c'est mon opinion, j'ai peut-être tort, ça se discute. Mais moi, je ne crois pas que ce soit ça. L'idée, c'est qu'ils veulent arriver à avoir les mains libres pour se développer à niveau égal avec ceux qui avaient ou qui ont les mains libres aujourd'hui. Si vous voulez, ils veulent négocier avec l'Europe, avec l'Angleterre, avec les États-Unis à égalité.
Ils veulent jouer dans la cour des grands, voilà.
Et voilà, tout simplement.
Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas.
Ça implique le conflit. Moi, je crois qu'il y aura un conflit. Mais j'espère que les gens seront assez sages, ou bien alors que peut-être l'Occident va aussi changer dans ses manières néocoloniales de vivre.
Bon, ben espérons en tout cas. Quelle image la Chine veut donner au monde avec les Jeux Olympiques? Parce que pour eux, c'est une sacrée opération de communication.
C'est d'abord une opération de communication.
Qui est chère, d'ailleurs.
Ils veulent donner la meilleure image possible de pays grands, modernes, capables de faire des choses extraordinaires, capables de se transformer, capables même de... Si vous voulez, ils veulent montrer qu'ils sont entrés dans la phase qui les met à égalité avec les grandes nations du monde. Bon. C'est ça leur objectif.
Sauf que c'est mal parti.
Comment ?
C'est mal parti, là.
Mais non, c'est pas mal parti. Non. Vous faites allusion au Tibet ?
Oui, tout à fait.
Non, c'est pas mal parti. Ça, c'est une grosse erreur qu'ils ont faite. Bon, ils en font d'autres. Mais c'est une grosse erreur qu'ils ont faite parce qu'ils n'ont pas pensé qu'allait leur tomber sur le dos la manière agressive dont l'Occident voit la Chine. Parce que nous sommes agressifs vis-à-vis des Chinois. Nous, Français, en particulier.
On est très pro-tibétains, les Français.
Ben oui, c'est ce que je dis. Donc, si vous voulez, on est très pro-tibétain comme on est très pro-basque. On devrait être pro-basque. On devrait être pro-corse. Mais il se trouve qu'on est pro-tibétain. Bon, voilà.
C'est plus facile pour nous.
Oui, c'est bien plus facile. Mais d'autre part, non, mais il y a un vieux fond, si vous voulez, de péril jaune, de chinois, shintok, comme on disait, etc. Les Français ont un mépris qui continue vis-à-vis de la Chine et qui se double d'une lutte politique, parce qu'il y a bien une lutte politique là-derrière. Alors, les Chinois ont eu tort, ils ont fait des erreurs avec le Tibet, ça c'est clair. Mais le problème, c'est pas tellement celui du Tibet, je dirais. C'est le problème de la gestion qui est posée à tous les peuples du monde, des minorités nationales. Hein, je pense qu'il faut réintégrer le Tibet dans les minorités nationales. Il y a des minorités nationales nombreuses en Chine, hein, 55. Alors, d'un côté, ils les conservent. Mais qu'est-ce que ça veut dire de conserver ? Ça veut dire qu'on les met dans des parcs et qu'ils ne se développent pas. Ou de l'autre côté, ils les font évoluer. Mais à ce moment-là, on leur dit, vous les génocidez. Hein, si vous voulez, on n'est pas dans ce qui s'est produit au Canada ou ce qui s'est produit aux États-Unis au moment où on a tué tous les Indiens.
On pourrait faire une réserve de Tibétains, mais ce n'est pas terrible.
Mais justement, on pourrait faire une réserve de Tibétains. Personnellement, je n'y suis pas favorable. Parce qu'à ce moment-là, on va faire une réserve de Corse, une réserve de Basque, une réserve de Breton, pourquoi pas, etc., etc. Et une réserve de Bavarois en Allemagne, et une réserve de Tchétchènes en Tchétchénie, et une réserve, etc., etc. C'est-à-dire que le monde entier est confronté aujourd'hui au problème de l'existence de communautés qui ne veulent pas se dissoudre dans la nation.
Alors comment on fait ?
Ben, comment on fait, j'en sais rien. Et même les Chinois ne savent pas, la preuve.
Là, ils ne savent vraiment pas, parce qu'ils s'y prennent mal. Parce que non seulement il y a ce problème du Tibet qui est apparu comme la face immergée de l'iceberg, mais il y a ce problème des minorités, mais il y a surtout le problème de la liberté d'expression en général qui s'est cristallisé à partir du Tibet, là, récemment. Mais bon...
Je dirais qu'elle s'est cristallisée pour nous.
Pour nous, oui, bien sûr.
Non, c'est pour nous. Mais à l'intérieur de la Chine, non. La liberté de parole, etc., il n'y avait pas de problème au Tibet, mais elle n'existait pas, ou
ben
peu.
Voilà.
Hein, oui. Donc, c'est en train de se lâcher un petit peu. On le voit bien avec Internet, etc. Donc, il y a une évolution. Cette évolution, en fait, elle va être cassée à cause des problèmes tibétains. Je pense. Hein. Attends, laissons passer les jeux, puis on verra bien après. Hein. Pour le moment, on lâche du lest, et puis on essaye que les jeux se passent bien. Et que la Chine sorte grandie de l'affaire. Et puis après, on va régler les problèmes. Et les problèmes, ils sont justement là. Est-ce qu'il faut donner plus de liberté ou pas ? Mais en même temps, c'est un problème de direction générale de tous les États. Est-ce qu'il faut être autoritaire ou est-ce qu'il ne faut pas être autoritaire ? Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie dans laquelle on ne sait plus qui gouverne au bout de 4 ans, etc. ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on peut développer un pays si on change tous les 4 ans de ligne de fonctionnement ?
Ah, ça risque pas d'arriver aux Chinois. Là, au moins, eux, ils ont une vraie ligne.
Ben, c'est pas sûr. Et là, ils ont une ligne. Mais supposez qu'elle change. Qu'est-ce qu'on aurait à la place ? Ou bien une ligne aussi dure dans un autre sens, ou bien alors des changements tout le temps. Alors, les changements tout le temps, ils ont expérimenté ça.
Et ça leur va pas du tout.
Et ça va, surtout avec 1,3 milliard.
Voilà, c'est ça. On ne peut pas gouverner un pays aussi grand à la manière de l'Italie.
Hein. Ni de l'Italie, ni de la France, non. Certainement pas.
Ah oui, non, ça c'est sûr. Mais quand vous disiez qu'ils lâchent du lest au moment des Jeux Olympiques, ils ont quand même aussi resserré un petit peu...
Bien entendu. Ce n'est qu'en mettant hors de nuire, je dirais... Vu du point de vue des Chinois, hein. Ce n'est qu'en empêchant de parler les plus activistes qu'on peut lâcher du lest par ailleurs. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est politique, je dirais. Tous les politiques font ça. On commence d'abord par mettre en taule ceux qui protestent. Et puis après, on dit... Mais vous voyez, on dit au peuple, on lui laisse des bribes. Et on lui dit, bah, écoutez, voilà. Alors tout le monde est content, même ceux qui regardent de l'extérieur.
Ah, c'est d'excellents politiques, les Chinois. Alors ils ont un slogan des JO, c'est « Un monde, un rêve ». Mais c'est pas un monde, un rêve pour tout le monde, quand même.
Non, mais jamais. Nous avons un monde, un rêve aussi chez nous. Et moi, je connais des gens qui sont pauvres, quoi. Hein. Même, on les rencontre dans la rue, parfois. Et, par exemple, demain, je sais pas. Et puis, vous avez aussi... demain, c'est le 22 mai, il y a une grève. Hein, parce que
oui, c'est vrai.
Faut pas oublier.
Il y a des choses à défendre chez nous aussi.
Oui, oui. Et donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pauvres. Mais tel que c'était parti, si... si le changement ne s'était pas fait ces dernières années, il y aurait encore plus de pauvres aujourd'hui qu'il n'y en a. Alors c'est vrai qu'il y en a qui profitent très vite et très haut et très loin, et puis d'autres qui vont attendre longtemps. Mais on n'a pas encore trouvé un moyen qu'il y ait de l'égalité parmi les peuples.
Ça, c'est vrai, en Chine ou ailleurs.
En Chine ou ailleurs.
Quelles seraient les conséquences d'un éventuel boycott des JO par les Occidentaux ?
Ce serait stupide.
Certes.
Ce serait stupide. Ce serait des conséquences qui seraient extrêmes. Non, mais ça ne va pas se produire. C'est pas possible. Je ne connais pas de gouvernement qui soit assez stupide pour faire ça.
Oh, mais les Français, on ne sait jamais.
Non, je n'y crois pas. Mais bon, enfin, c'est une...
Faux, on verra.
C'est personnel.
Oui.
Mais si ça devait se produire, je crois qu'on serait reparti pour un siècle de rancœur supplémentaire des Chinois vis-à-vis de ceux qui feraient le boycott.
Ah, vous n'hésitez pas sur un siècle.
Ah oui, je n'hésite pas. Parce que quand vous discutez un peu en détail avec un Chinois... Si vous creusez un petit peu son nationalisme, il remonte facilement à 1842 et il n'a pas oublié les Anglais. Il remonte à 1930 et il n'a pas oublié que le Japon a envahi la Chine à ce moment-là. Et ils vont mettre longtemps à l'oublier.
Donc, ils ont une bonne mémoire.
Oui, bonne mémoire. Que les Russes ont envahi la Mandchourie, etc., etc. Donc je pense que ce serait dommageable pour tout le monde.
Oui, et bien sûr économiquement. Parce
oui,
que là,
économiquement,
on
se développe autrement. Vous pensez bien que trois nations qui vont, par exemple, boycotter la Chine, eh bien, les Chinois, ils iront travailler avec les autres.
Ah oui, non, mais c'est pour celles qui l'auraient boycotté que ce serait grave.
Ben, oui, non, c'est pour ça que moi, je crois que le boycott est complètement irréaliste.
Ça s'est fait à Moscou, mais c'est pas possible avec la Chine.
Ah non, plus maintenant.
Ouais,
c'est plus possible aujourd'hui.
À cause de la mondialisation,
justement. Le monde a changé. Le monde a changé.
Et c'est les Chinois qui nous le rappellent, d'ailleurs.
Bon, oui, il n'y a pas que, mais oui.
Entre autres. Alors, puisque, bon, on va s'imaginer qu'il n'y a pas de boycott, mais il y a quand même ce problème du Tibet qui reste latent. Est-ce que le gouvernement chinois est prêt à une réelle discussion avec le Dalai Lama ? Et finalement, si jamais il discutait, qu'est-ce qu'il négocierait ? Qu'est-ce qu'il y a à négocier avec le Tibet ?
Rien.
Bon.
Donc, il n'y aura pas de discussion, à mon avis. Il n'y a rien à négocier. Il faut que le Tibet entre dans la Chine comme le Roussillon est entré dans la France.
Bah, officiellement, il l'est.
Attendez. Comme la Savoie est entrée dans la France. 1860 seulement. Hein?
Mm-hmm.
C'est récent. Avant de devenir français. Les Savoyards, ils n'étaient pas français.
Mais je ne suis pas sûr que les Savoyards aient fait des émeutes.
Ben non, justement. Parce qu'il y en avait en partie qui étaient pour, en partie qui étaient contre. Et que c'était aussi une époque différente. Alors, mettons même que, si vous voulez, tous les Tibétains, ce que je ne crois pas, hein, parce que là aussi, pour parler du Tibet en détail, il faudrait une bonne heure, et c'est pas un peuple uni, il y a plein de petites divisions entre eux qui sont assez graves même. Donc, ce n'est pas tous les Tibétains qui ne veulent pas entrer en Chine. C'est une partie, bon, pourquoi pas, elle a le droit, bien sûr. Alors, il s'agit de trouver un accommodement entre... un certain nationalisme tibétain, mais qui est un nationalisme, je veux bien qu'il soit légitime, mais qui est hors du temps, qui ne correspond pas au stade actuel où en sont les États-nations. Le monde entier est fait d'États-nations, et vous voyez bien, même en Afrique, on n'arrive pas à faire des sécessions, ou très difficilement. Il faut un éclatement comme l'URSS pour qu'on ait de nouvelles nations qui apparaissent. Mais il n'est pas question que la Chine explose. Parce que si la Chine explose, on verra d'autres... Mais je préfère pas y penser parce que ce n'est pas pour le moment envisageable. Ça peut arriver plus tard, dans un siècle ou deux, j'en sais rien. Mais pour le moment, on est dans un État unitaire. Et le Tibet fait partie de la Chine. Ça a été reconnu par tout le monde en 1951. Que ce soit juste ou injuste, c'est une autre affaire. C'est de la morale. Mais dans les faits, c'est comme ça. Et dans les faits, si vous voulez, le problème qui se pose aux Chinois, c'est de savoir si ils vont continuer à siniser le Tibet sous prétexte de le développer, et à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire, de manière à plus avoir de problème, déjà, de nationalisme et de, comme ils disent, de séparatisme, et ils vont attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Alors, j'espère qu'ils vont être plus habiles qu'auparavant, c'est-à-dire qu'au lieu de taper sur les gens et de tirer dessus, ils vont discuter. Mais sur les choses essentielles, je pense qu'il n'y a bon, il y aura l'autonomie, peut-être une forme d'autonomie qu'on peut imaginer comme on veut.
Oui, parce que malgré tout, je pense à la langue, par exemple. Des fois, ils ne demandent pas grand-chose. Bon, il y a la religion, la pratique de la religion. Et puis, s'il lâchait du lest sur la langue, j'ai lu que, par exemple, si on écrivait son adresse en tibétain sur un courrier, eh ben, le courrier n'arrivait pas parce que le facteur, il est chinois. C'est bête, mais du coup, il ne comprend rien.
Eh bien oui, mais moi, je me rappelle que dans l'école française républicaine, après Jules Ferry, il était interdit de parler patois quand on était dans le Lot ou bien en Gascogne, et que tous ceux qui parlaient, ou dans les Pyrénées, et que tous ceux qui parlaient le patois, eh bien, les instituteurs leur tapaient dessus. Alors, là aussi, langue nationale, plusieurs langues nationales, pourquoi pas, mais on le voit bien même en Inde, tout le monde parle anglais, ceux qui parlent des langues différentes, il y a le hindi qui est majoritaire, etc., etc. En Chine, il y a, tous les élèves doivent apprendre le mandarin. Bon, c'est comme ça, hein. Tout le monde apprend à parler la langue courante, ce qu'on appelle le pouton roi. Et une fois qu'il y a ça, ben, les gens peuvent conserver leur langue. Mais c'est vrai qu'après, progressivement, il va se produire. On est dans le cas d'un État unitaire, je rappelle, comme la France. Et donc, il va se produire progressivement tous les patois doc, tous les patois bizarres, le normand, le picard. Enfin, on les distinguait bien il y a quelque temps. Il y a 2 siècles, hein, rappelez-vous Molière. Donc tout ça, ça s'est fondu dans une nation qui parle globalement la même langue. Encore qu'à Marseille, on a un drôle d'accent. Mais bon, eh ben, ce sera un peu la même chose en Chine, il me semble. C'est pour ça que je pense que là-dessus, il faudra que les Chinois lâchent du lest.